bienvenue dans cette émission Panorama économique, la rétrospective de l'actualité économique de la semaine sur Radio Okapi. Au sommaire, l'environnement macroéconomique de la RDC est relativement stable malgré les dépenses occasionnées par la guerre dans l'est du pays. 600 milliards de francs congolais de manque à gagner en termes de recettes occasionnées, 4 fois plus que ce montant en termes de dépenses. Déclaration de Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, mardi sur Radio Okapi. Faire des affaires en RDC n'est pas une mince affaire. Les nombreuses tracasseries et le faible pouvoir d'achat de la population sont parmi les difficultés que connaissent les opérateurs économiques de Kinshasa. L'Agence nationale pour la promotion des investissements, ANAPI, reconnaît ces difficultés, mais affirme qu'il y a eu également beaucoup d'avancées dans les secteurs. C'est aussi à suivre dans cette émission. Et pour pallier au déficit énergétique de l'industrie minière au Katanga, la GECAMINE compte construire une centrale thermique d'une capacité de 500 MW. Panorama économique à la présentation, Jocelyne Moussa Opondé et Agathe Mponaelema. Nous recevons ce samedi Georges Kapiamba, avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice. Monsieur Kapiamba, bonjour.
Bonjour, madame.
Vous militez également pour la défense des droits socio-économiques. C'est surtout en cette qualité que nous vous recevons dans cette émission.
Panorama économique, le dossier.
600 milliards de francs congolais de manque à gagner en termes de recettes ont été occasionnés par la guerre dans l'est du pays et 4 fois plus que ce montant en termes de dépenses. Mais l'environnement macroéconomique de la RDC est resté relativement stable.
Comment le gouvernement congolais s'y prend pour maintenir une relative stabilité au vu également du contexte international? Pour Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances, le gouvernement arrive à tenir le coup grâce à une politique d'anticipation. Il nous l'a dit cette semaine, on l'écoute.
Les politiques macroéconomiques de manière générale, spécialement la politique monétaire, la politique budgétaire, sont suivies de manière extrêmement rapprochée. Nous ne subissons pas les événements, nous anticipons par rapport à la fois à l'évolution de la conjoncture internationale, à l'évolution de la conjoncture interne, et donc nous avons un cadre de concertation à travers la Troïka politique qui s'est réunie tous les mardis et depuis maintenant plusieurs mois. Vous le savez, il y a une Troïka stratégique qui est présidée directement par le chef de gouvernement et toutes les questions de politique économique sont passées au peine fin. Le moindre dérapage est anticipé, les solutions idoines y sont apportées. Nous gérons la politique économique. Bien sûr que les défis sont importants lorsqu'on est dans un contexte de guerre. La guerre nous coûte en termes de manque à gagner sur les recettes parce que le chef du gouvernement a chiffré en termes de plusieurs milliards, 600 milliards de francs congolais. Et en termes de dépenses, c'est également des sommes importantes. C'est 4 fois plus que le manque à gagner en termes de recettes. Ça, c'est un défi essentiel. Comment nous faisons pour à la fois respecter nos engagements en matière de paiement régulier? Comment, dans ce contexte, nous finançons les investissements? Et comment, dans ce contexte, nous finançons les dépenses liées au capital humain? C'est des défis qui sont des défis essentiels.
Voilà, Patrice Kitebi, ministre délégué aux Finances. Monsieur Georges Kapiamba, nous le remarquons, le taux d'échange est plus ou moins stable, l'inflation également maîtrisée, c'est entre autres les paramètres de cet environnement macroéconomique dont on parle. Avez-vous fait le même constat?
Oui, effectivement, madame, nous constatons depuis un temps que le gouvernement a su maintenir les taux d'échange qui ne varie pas négativement, ce qui est une bonne chose, mais cependant, il faut aussi relever que ce maintien des taux n'a pas d'impact positif sur la vie des citoyens parce que il n'est pas possible aujourd'hui pour un citoyen congolais de pouvoir louer les deux bouts de mois avec ce qu'il gagne comme revenu. Si nous prenons seulement les cas des agents et fonctionnaires de l'État, vous allez vous rendre compte que ce qu'ils ont comme revenu par rapport au pouvoir d'achat sur le marché.
Donc l'économie vue dans son ensemble marche bien, mais on ne le ressent pas dans la petite économie. Hein.
Non, il me semble qu'il s'agit là de résultats qui sont presque artificiels, qui ne se traduisent pas dans le changement ou l'amélioration directe des conditions de vie des citoyens, ce qui ce qui ne reflète pas la situation.
Mais maître, il faut quand même dire, quand le gouvernement, comme vous l'avez dit, arrive à maintenir le taux de change assez stable, aujourd'hui tu as dit dollars c'est 9200 francs, demain aussi, après-demain aussi, mais avant c'était, aujourd'hui c'est 9000, après c'est 8000, c'est 6000. Il faut avouer
que... Malgré les dépenses qu'on engage, oui, hein, à cause de la guerre dans,
oui,
l'Est.
Donc c'est quand même quelque chose, et quand les salaires des fonctionnaires de l'État sont de plus en plus payés régulièrement et à temps, c'est tout de même une amélioration sur le quotidien du Congolais.
Oui, mais c'est une analyse, mais il faut arriver aussi à nuancer ça par rapport au prix qui galope tout le temps sur le terrain, parce que si...
On parle de la maîtrise de l'inflation, les,
oui,
prix sont plus ou moins maîtrisés.
Oui, l'inflation est plus ou moins maîtrisée, mais cela devait avoir un impact positif directement sur le vécu des citoyens en termes de coûts des prestations sur les marchés, parce que si on maîtrise seulement l'inflation et que cela n'a pas d'impact directement sur le cours de la vie, c'est pratiquement quelque chose d'artificiel qui ne peut pas nous permettre de dire aujourd'hui qu'il y a eu amélioration du cadre macroéconomique à partir de cet élément-là.
Voilà, le pouvoir d'achat, puisque vous en parlez, c'est d'ailleurs le deuxième dossier que nous vous proposons ce samedi. Le faible pouvoir d'achat de la population et les contrôles intempestifs et injustifiés des agents de l'État sont autant des facteurs qui font que faire du business en RDC n'est pas chose facile.
C'est du moins ce que nous ont révélé cette semaine quelques opérateurs économiques ici à Kinshasa. Paul Matendo était allé à leur rencontre.
Vente maintenant, ils ont dit que le pouvoir d'achat, c'est vraiment un problème. Et les taxes, les ventes, c'est vraiment un problème.
Cet opérateur économique qui évolue dans la vente des habits s'est plaint du faible pouvoir d'achat de ses clients. Ces clients qui ne sont rien d'autre que les agents et cadres, tant du secteur public que privé. Selon lui, il faudrait que l'État améliore les salaires des fonctionnaires pour une bonne circulation de l'argent. Par ailleurs, l'État devrait également réguler les services taxateurs. Il est inadmissible qu'un seul service déploie au même instant plusieurs équipes pour percevoir l'impôt auprès d'un seul client, comme l'explique cet homme d'affaires économique qui opère dans la vente des matériels de construction.
Moi, il y a un service Moko, mais il est réparti à 4 ou 5 places différentes. Je vais prendre l'exemple de Moko, pour vous donner une bataille, Kiltier Art, par outil hôtel de ville, Kiltier Art, par outil commune.
Cet opérateur économique se plaint également du fait que les agents de l'administration fiscale lui exigent de payer la taxe sur la valeur ajoutée alors qu'il n'a jamais reçu d'avis d'assujettissement. D'autres évoquent l'augmentation du taux de certains impôts au gré de ces agents. En dehors du flou qui existe dans la fiscalité congolaise, il faut noter également les difficultés liées aux coupures intempestives de l'énergie électrique. Mais que pensent les gros investisseurs à ce sujet? Est-il facile d'investir en RDC? André Kadima, entrepreneur hôtelier, répond.
Non, il n'est pas facile d'investir dans notre pays de notre du Congo. Il y a plusieurs problèmes qui se posent. Le problème principal, c'est l'obtention de crédit. Les banques n'accordent pas de crédit. Et puis, un deuxième problème, c'est qu'il n'y a pas de production locale, par exemple, de matériaux de construction, ou des matériaux d'hôtellerie, ou des matériaux de restauration. Donc on doit tout ça importer. Et quand on importe, les délais sont très longs. Parfois, entre les ports d'embarquement et Kinshasa, ça prend entre 3 et 4 mois.
Pour André Kadima, avant l'instauration de la taxe sur la valeur ajoutée, l'État accordait aux investisseurs une valeur normale d'exonération. Selon les opérateurs économiques, l'État devrait tout faire pour faciliter les affaires, notamment réduire les services taxateurs, faciliter les importations, fournir de l'énergie électrique et de l'eau, bref, améliorer le climat des affaires.
Georges Kapiamba, vous venez de suivre cet élément de Paul Matendo, multiplicité des taxes, on en parle, de contrôle intempestif et injustifié de services de l'État. Le problème d'électricité, finalement, faire du business en RDC relève d'un parcours de combattant. Les problèmes sont identifiés, mais apparemment, il n'y a pas de solution adaptée pour résoudre les problèmes.
En fait, sur ce point-là, je partage totalement l'analyse de nos compatriotes de tout à l'heure. C'est vrai, il y a beaucoup de problèmes, mais il faut aussi signaler qu'au niveau interne, il y a beaucoup d'efforts qu'il faut fournir. D'abord, la modernisation de voies de communication, qui constitue aussi un obstacle aujourd'hui pour les opérateurs économiques qui ne sont pas à mesure de transporter ou de déplacer leurs marchandises facilement, surtout à l'intérieur de province. Vous allez constater que vous pouvez déplacer une marchandise sur une petite distance de 50 ou 100 km au bout de 2-3 jours, ce qui pose aussi un autre problème. Il y a la question de l'énergie aujourd'hui qui est devenue un casse-tête parce que le délestage se multiplie partout. Ça ne permet pas aux petites et moyennes entreprises de pouvoir redémarrer dans notre pays parce que la SNEL aujourd'hui est incapable de pouvoir fournir convenablement l'électricité. Il faut aussi ajouter la mauvaise foi de certains opérateurs économiques qui ne respectent pas la marge bénéficiaire dans la fixation de leurs prix, qui se permettent de s'octroyer des profits et bénéfices énormes par rapport au prix des revient réel de leurs marchandises, et surtout que nous sommes aujourd'hui dans un état où le contrôle ne se fait pas de manière efficace et rigoureuse, et même les contrôleurs du ministère de l'économie et autres qui sont généralement envoyés sur le terrain ne le font pas avec rigueur. Ils s'habituent aux problèmes de corruption, étant donné qu'eux-mêmes ne sont pas mis à l'abri de la corruption par le fait que leurs salaires sont maigres. Donc ce sont des facteurs qui perturbent totalement le fonctionnement du système macroéconomique, et le gouvernement doit fournir encore des efforts pour les régler.
L'électricité, puisque vous en parliez déjà, la société minière de Bakwanga vient de résilier son contrat avec l'entreprise Hydroforce Congo. Et cette compagnie qui était chargée de commercialiser l'énergie électrique produite par la centrale hydroélectrique de Tchala, appartenant à la MIBA.
Il l'a fait savoir à travers un communiqué parvenu à Radio Okapi Mbujimayi. La MIBA reproche à la société Hydroforce Congo le non-respect des accords de principe. Selon la MIBA, ce contrat demandait notamment à Hydroforce Congo d'augmenter la production électrique de 4500 à 13000 kW. Du côté de Hydroforce, ici à Kinshasa, on affirme plutôt que la convention de concession pour la distribution publique de l'énergie électrique a été signée avec le ministère de l'énergie à Kinshasa et non avec la MIBA. Cette dernière affirme avoir porté le dossier devant les autorités compétentes de la RDC, Daniel Tembinzoni.
Dans un communiqué datant de la semaine passée, la MIBA a informé la population de Mbujimayi de la résiliation de sa convention de remise en état de la centrale hydroélectrique de Tchala, conclue avec Hydroforce. Mais selon le communiqué de Hydroforce publié jeudi de cette semaine, l'entreprise dit avoir signé la convention de concession pour la distribution publique de l'énergie électrique en Mbujimayi avec le ministère de l'énergie et non avec la minière de Bakwanga. Ainsi, la MIBA n'a pas le droit de lui interdire de commercialiser son courant électrique, indique-t-elle. De plus, selon l'ingénieur Mwanda Chimba de l'entreprise Hydroforce, les centrales de la MIBA sont vétustes et la remise en état convenue dans la convention datant d'il y a 4 ans suppose la réfection et les réparations nécessaires pour la mise en état du fonctionnement, excluant toute hypothèse de rénovation. Selon Hydroforce, la MIBA ne peut donc pas lui faire porter la charge de la non-augmentation de la production de l'énergie électrique. Ainsi, Hydroforce demande à sa clientèle de Mbujimayi de continuer à payer ses factures de consommation auprès de sa direction provinciale comme à l'accoutumée.
Merci à Daniel Tambizoni, Georges Kapiamba. Vous êtes avocat. Comment réagissez-vous par rapport à cette information?
Alors, d'abord, je voudrais dire que lorsque les parties sont engagées dans un contrat, chacune d'elles doit respecter les clauses. Cela suppose que chacune d'elles doit prendre des dispositions pour que les obligations contractées soient accomplies ou réalisées dans les meilleurs délais ou dans les délais convenus. Si j'ai bien suivi le reportage de votre confrère, la MIBA reproche à Hydroforce le fait de n'avoir pas fait preuve des capacités financières mais aussi techniques, étant donné que dans le contrat il était convenu que la réparation ou l'augmentation de la capacité énergétique de la centrale de Tchala puisse se réaliser dans les délais de 4 ans, et qu'aujourd'hui, 4 ans passés plus quelques mois, il s'est avéré que cette société n'a pas
relever les défis qui lui étaient soumis. Mm. Donc à ce moment-là, je pense que l'AMIBA, si réellement elle a été une des parties à la conclusion du contrat, mmh, est en droit de résilier sans attendre.
Le problème ici, c'est que les uns et les autres ne disent pas la même chose. L'AMIBA estime qu'avec Hydroforce, il fallait augmenter la production. Hydroforce estime que non, nous, c'était juste la maintenance de machines. Et voilà qu'on n'avait pas la responsabilité d'augmenter la production, puisqu'on a, selon Hydroforce, ils n'ont même pas accès directement aux machines, ce sont les ingénieurs de l'AMIBA qui font des demandes selon les pannes et Hydroforce fournit en matériel. Donc apparemment même sur les clauses de la convention, ils ne se mettent pas d'accord.
Oui, alors dans ce cas, il faudrait que les ministères de tutelle de l'AMIBA puissent assurer rapidement un arbitrage avant que les choses ne se gâtent, c'est-à-dire que Hydroforce ne soit mise dans l'impossibilité de continuer à travailler sur terrain, parce que là, j'ai cru entendre que c'est auprès de l'Hydroforce que les clients devaient payer les factures mensuelles de la consommation de leur électricité. Donc, il faudrait que le ministère prenne des dispositions, donc le ministère entendu comme gouvernement, pour maintenir d'abord la situation actuelle, pour éviter que les populations qui bénéficient de la présence de l'Hydroforce ne soient pas préjudiciées. Mm-hmm. Parce que c'est bien pour l'AMIBA de résilier, mais pour remplacer Hydroforce, est-ce que l'AMIBA a déjà pris des dispositions pour que cela se fasse dans les meilleurs délais? C'est aussi un cas très très essentiel qu'il faut analyser. Et s'il s'avérait qu'ils ne sont pas à mesure de se mettre d'accord, ils doivent se tourner vers les cours et tribunaux, mais quitte à prendre des mesures conservatoires pouvant protéger la situation actuelle, parce qu'il faut savoir que la province du Kassai oriental souffre énormément de déficits en énergie électrique et que la seule centrale là fournit un peu d'électricité à la ville, et que si les choses sont stoppées, c'est la population qui va davantage souffrir.
Panorama économique, matière première. La Gécamines compte construire une centrale thermique d'une capacité de 500 MW en partenariat avec un groupe allemand.
Ceci pour pallier aux difficultés liées au déficit en énergie électrique auquel l'industrie minière au Katanga fait face ces dernières années. L'administrateur délégué de la Gécamines nous en parle dans cet entretien qu'il a eu avec Paulin Munanga.
Oui, je pense qu'il faut partir de la genèse pour justifier ce projet de construction de cette centrale thermique à l'UNA. Ces dernières années, je dirais, l'industrie minière est en train de faire face à un sérieux problème d'électricité. Notre société nationale est en train de fournir tous les efforts pour répondre à ça, mais les besoins sont très importants. Et c'est ainsi que la Gécamines a pensé apporter sa contribution à la recherche de la solution au problème de déficit énergétique. Elle a donc pensé à concevoir ce projet de construire une centrale thermique à l'UENA d'une capacité de 500 MW.
Est-ce que l'avènement de cette centrale pourrait occasionner la hausse de la production de cuivre à la Gécamines?
Oui, bien entendu, parce que la limitation en fourniture énergétique se répercute négativement sur le niveau de production, que ce soit au niveau de la Gécamines ou au niveau d'autres entreprises minières. Si on dispose d'un peu plus d'énergie, ça pousse les professionnels des mines d'augmenter leur production.
Croyez-vous que cela va résoudre les difficultés en énergie électrique que connaissent les entreprises minières qui fonctionnent très souvent avec le courant importé de la Zambie?
Résoudre tout le problème, non. Mais on va apporter une contribution significative pour réduire les problèmes. La Gécamines va utiliser la partie de cette production d'énergie qui est nécessaire pour son fonctionnement. Le reste est mis sur le marché, à la disposition de tous les autres miniers. Ceux qui seront intéressés viendraient souscrire et passeraient à un marché, à un contrat avec la Gécamines et achèteraient cette puissance.
Dans combien de mois comptez-vous mettre en pratique ce projet?
Le projet global après l'étude de faisabilité va varier entre 24 et 30 mois.
Nous avons vu dans ces pays et même à la Gécamines où plusieurs projets sont restés obsolètes après leur annonce. Est-ce que celui-ci va tenir ses promesses?
Je vous dis, voyons voir.
Voilà, Monsieur Georges Kapiamba, le problème de l'électricité, nous l'évoquions tantôt là. Nous savons aussi que le raccordement à l'électricité a fait perdre de points à la RDC, au rapport Doing Business. Aujourd'hui, c'est difficile de faire les affaires, pratiquement, parce que, bon, il n'y a pas de courant. Et est-ce que vous pensez que...
Sans compter, Jocelyne, l'économie des ménages.
Des ménages, impossible de faire des provisions aussi. Et donc, nous savons qu'il y a la loi sur la libéralisation du secteur de l'énergie qui est en étude, hein, en examen au Parlement. Est-ce que vous pensez que cette loi, si jamais elle était adoptée, pourra tant soit peu soulager ce problème d'électricité en RDC?
Oui, je pense que ce processus est à soutenir parce que même l'ADG d'AG Camine, quand il parle de la construction de cette centrale thermique, il parle d'un projet, je ne sais pas dans quel cadre vont-ils inscrire la gestion de ce projet, étant donné que jusqu'à ce jour, c'est la SNR qui a les monopoles de fait en ce qui concerne les transports, la distribution ou la production d'électricité.
Et sur terrain, il y a déjà d'autres entreprises qui ont commencé, comme Hydroforce d'ailleurs, dont on parlait.
Exact, qui ont commencé, mais le cas de la GECAMINE nous étonne parce que rappelez-vous que la ligne Ingachaba a été principalement construite et financée par la RDC pour alimenter, renforcer la capacité énergétique des installations de la GECAMINE. Et aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi la GECAMINE, qui a déjà beaucoup de dettes vis-à-vis de ses créanciers, peut-elle s'orienter aussi dans ce genre d'investissement qui risquerait encore d'alourdir sa dette, alors qu'elle est obligée de continuer avec des réformes, l'assainissement de sa gestion pour devenir compétitive en tant que société de production et de commercialisation de produits miniers. Donc, pour nous, nous pensons que la GECAMINE n'a pas fait un bon choix en s'orientant dans ce secteur-là, qu'il faut, par contre, soutenir les efforts aujourd'hui qui vise à libéraliser d'abord le secteur.
Mais libéraliser les secteurs, c'est créer d'autres sources d'énergie. Si la GECAMINE devient indépendante vis-à-vis de la SNEL, c'est quand même une bonne chose.
Oui, mais la GECAMINE ne devra pas s'encombrer parce qu'à ce moment-là, elle va d'abord ajouter un autre objet ou une autre partie d'activité à son objet social. Ce qui n'est pas une bonne chose, alors que dans sa restructuration actuelle, elle a plus besoin de se spécialiser dans un domaine. Et elle a abandonné tout un tas d'activités, notamment agricoles, dans les domaines des sports. Elle a fait ça pour pouvoir ramener sa gestion à s'orienter vers une seule production.
Mais l'électricité, c'est vital pour cette industrie. Je suppose que c'est dans ce cadre-là qu'ils ont fait ce choix.
Oui, mais il faut aujourd'hui beaucoup d'efforts seulement pour rentabiliser la gestion d'abord de la SNEL, qui a le monopole de fait en ce qui concerne la fourniture de l'électricité, et qu'au niveau du Katanga, il y a un autre problème, c'est que avant de distribuer à autant d'entreprises qui sont installées, il n'y avait pas eu d'études de faisabilité au départ. Et nous ne comprenons pas ce qu'on a fait de toutes les contributions de ces entreprises. Nous avions suivi à un moment donné des conférences, des réunions qui étaient tenues et qu'il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont souscrit à contribuer aux charges de la modernisation de la SNEL en ce qui concerne la fourniture d'électricité au Katanga. Mais nous ne savons pas ce qu'on a fait de tous ces fonds pour que la GECAMINE puisse encore penser se lancer dans le même domaine alors que nous l'attendons ailleurs.
Panorama économique, reportage.
Est-il possible de vivre à Kinshasa avec le revenu de son activité principale? Combien les Kinois dépensent-ils mensuellement et comment lier les deux bouts du mois? Réponse à toutes ces questions dans cette mini-enquête que le Desk Économie de Radio Okapi a effectuée pour vous. Et le reportage est signé Jocelyne Moussaoponde.
Avant toute chose, il est bon de connaître les différentes charges mensuelles des ménages et les classifier. Nous le savons, il existe des charges fixes et celles qui varient selon les mois. On a notamment le loyer, la nourriture, l'eau, l'électricité, le transport, l'éducation des enfants et aussi les imprévus. Combien dépense-t-on alors chaque mois pour couvrir ces charges?
Le loyer c'est $50, l'électricité n'a résidé des eaux, c'est quoi comme $60.
Combien d'eau dépenser pour aller beau temps pour dans le mois?
Au moins $350. Le loyer n'a fait $50, le courant n'a mal au moins $15. Bon transport pour le moment mobilement c'est bon, c'est moins $50. Là c'est banne, bon totalité paye une somme de $600.
Je paye l'année académique à peu près $350 l'année. Je loue encore une maison $50 et en plus j'ai deux petits frères encore qui sont à l'université et qui dépendent de moi.
Ces dépenses varient bien sûr, mais se situent très rarement en dessous de $800 américains le mois. Il y a lieu de s'interroger finalement sur les salaires moyens d'un Quinois. Écoutons-les.
Tout ça, la vente des cartes mobiles prépayées, à terme à gagner, ça varie, hein, ça peut être aussi 100, 110, le coût qui t'appelle à 80 par rapport au cas qu'il y a moins en dengue, rendement que vous allez là.
Actuellement, on me paye $100.
Le NASA, agent de sécurité privée, toujours à peu près $100.
Ça marche toujours entre 1000 et 1500 $.
Dans une banque de la place, plus ou moins $500.
80, $100 le revenu mensuel pour la plupart, 500, 800, $1000 pour les mieux payés. En faisant un petit exercice de calcul, il se dégage un déséquilibre entre les revenus de ces ménages et leurs dépenses. Véritable paradoxe. Le salaire moyen d'un Quinois ne peut supplier toutes ses dépenses. Alors comment font tous ces ménages pour arriver à faire face à ces décalages?
Nous nous débrouillons autrement. Hein. Il y a des choses qu'on envoie à l'intérieur pour vendre. C'est là qu'on peut gagner quelque chose. C'est comme ça.
Moi, backup quoi. Je connais un petit électricité que je fais. Il y a quelqu'un qui a sa maison et dit non, mon frère vient me faire l'installation de la maison. Je peux aller, je fais l'installation du courant, et puis après, il me paye à la fin, donc moi, $50, un peu de $30, donc voilà.
Maintenant, na ba makam nyonso wana ekoma ka, il faut aussi que nous contacter ba connaissance, ba famille, pour nous commencer à vivre.
On peut prendre un crédit, salaire, une petite voiture pour, comme taxi, comme une autre source de revenus. Madame peut faire un petit commerce quelque part. Je ne crois pas qu'il y a quelqu'un dans ce pays qui vit de son salaire.
Ce qui est essentiel, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à épargner un rond. C'est ça le problème majeur.
Impossible donc de nouer les deux bouts du mois avec seulement son salaire et en conséquence, difficile d'épargner. Il faut dans tous les cas se battre pour arriver à nouer les deux bouts du mois. D'aucuns pensent qu'au regard de leurs revenus, les Quinois ne devraient pas s'encombrer de trop de charges et la rigueur s'impose dans la gestion de leurs dépenses. Mais les analystes affirme plutôt qu'il revient aux employeurs de fixer les salaires de leurs employés en tenant compte de leurs besoins vitaux.
Voilà, nous retrouvons Maître Georges Kapiamba dans ce studio. Il est l'invité de Panorama Économique. Il a suivi très attentivement le reportage. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Alors, je constate d'abord que nous revenons encore au débat de l'absence de SMIG. Approprié si pas la non-application du décret présidentiel qui avait fixé à un moment donné un SMIG, parce qu'aujourd'hui les gens ne sont pas à mesure de nouer le bout de mois en ce qui concerne les travailleurs ou les agents et fonctionnaires de l'État, c'est parce qu'ils n'ont pas de rémunération. Les rémunérations ne sont pas fixées, le gouvernement ne s'associe pas, ce qui pose un problème énorme dans notre pays. Et les entreprises qui existent ne respectent même pas déjà ce SMIG.
Le SMIG, il est de $3 par jour. Ça fait combien par mois à peu près? $100, mais seulement, ça ne suffit pas. Oui, SMIG est respecté.
Non, pas du tout.
Mais oui. Il ne prend pas en compte les besoins vitaux, il est insignifiant.
Oui, c'est-à-dire que si vous prenez ne fût-ce que ce SMIG, vous trouverez que les $3 qui étaient fixés en dehors de ces $3, uh-huh, il faut ajouter aussi les avantages, les logements, oui, et consorts. Ça ne veut pas dire qu'il faut prendre seulement les $3 multipliés par autant de jours et que vous avez la rémunération. Dans la rémunération, il y a
ça,
beaucoup d'autres éléments.
Ça, c'est
peut-être
au ministère du Travail de clarifier cela.
Exact, exact. C'est ça le travail du gouvernement qui doit absolument faire respecter les principes qui régissent la définition de la rémunération. Mm-hmm. Ça doit être fait.
Donc le SMIC n'est peut-être pas respecté et il n'est pas à la hauteur du coût de la vie.
Pas du tout, parce que le SMIC doit s'adapter aux réalités de la vie. Et il peut être revu à tout moment.
Conséquence, les Quinois vivotent.
Exact, c'est ça.
Mais ils vivotent, mais c'est curieux quand même de voir ces mêmes Congolais qui ne gagnent pas assez d'argent, hein, s'encombrer de trop de charges, comme on le disait. Tout le monde a un téléphone VIP, des tablettes qui sont à la mode aujourd'hui. La télédistribution, les courses, beaucoup le font dans les supermarchés. Est-ce que les Kinois ont vraiment le moyen de s'offrir ces luxes?
Non, il faut se dire les choses telles qu'elles se déroulent sur terrain. Nous savons que la plupart des Kinois, si pas les Congolais aujourd'hui, vivent principalement de la mendicité. Vous verrez que les gens qui achètent des téléphones, ce sont...
VIP.
Voilà, ils se font octroyer des dons, des libéralités de la part de leurs frères, principalement ceux qui travaillent dans les ministères, parce qu'au moins, aujourd'hui, nous savons que la plupart de flux monétaires sont gérés au niveau des ministères. C'est la raison pour laquelle nous avons salué la décision du Premier ministre Matata de pouvoir réduire les trains de vie des institutions. Et nous sommes quand même déçus de constater que cette déclaration n'est pas traduite réellement en acte, parce qu'ils maintiennent toujours des salaires des ministres qui sont supérieurs par rapport aux autres citoyens congolais qui contribuent aussi au fonctionnement de l'État.
Voilà, Maître Georges Kapiamba, c'est sur ces commentaires que nous terminons cette émission Panorama économique d'aujourd'hui. Merci en tout cas d'être venu dans ces studios pour cette émission. Merci à vous tous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Panorama économique était co-présenté par Jocelyne Oussao Pondé et Agathe Pona, à qui je dis merci.
Merci à tous.
Bon week-end à vous tous.
Merci, pareillement.